Bienvenue à tous. J'aimerais parler sur « Délivre-nous du mal ». Dans Matthieu, chapitre 6, verset 9. « Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. » Nous méditons la prière du Notre Père qui nous révèle une certaine structure de la manière dont nous devons prier. Nous ne devons pas comprendre que cette prière est une récitation qu'il nous faut apprendre et répéter tous les jours, mais plutôt en dégager les principes qui vont nous aider dans notre vie de prière pour savoir comment mieux prier Dieu. On a tous besoin de faire des progrès dans la prière. On a tous besoin de prier mieux et de prier davantage. Bon, les grands principes, nous les voyons avec trois demandes qui concernent Dieu et trois demandes qui concernent nos besoins. On voit que cette prière est équilibrée. Nous avons déjà parlé de toutes les premières parties. Nous arrivons à la dernière des trois demandes qui concernent l'homme, et c'est cette prière qui dit « Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. » Alors j'ai regardé une autre version, puisque le mal, le malin, en fait, désigne le diable. Il y a une version plus explicite, qui s'appelle la version du semeur, qui dit ceci « Garde-nous de céder à la tentation, mais, et surtout, délivre-nous du diable. » Garde-nous de céder à la tentation. C'est peut-être plus facile à comprendre avec cette expression. Surtout, délivre-nous du diable. Mais d'où vient le diable? Quelle est l'origine du diable? Puisque Jésus en parle abondamment dans les évangiles et il dit que c'est notre ennemi. À l'origine, Dieu a créé les anges bons. Il n'a créé que des anges saints. Mais parmi ces anges saints, il y en avait un qui surpassait les autres en beauté, qui était un chérubin protecteur. Les chérubins, c'est une catégorie d'anges. Et dans son orgueil, il a voulu se faire l'égal de Dieu et recevoir l'adoration. Il était une créature de Dieu. Il était fait pour servir Dieu, pour obéir à Dieu. Mais Dieu a laissé le libre arbitre et cet ange a décidé, à un moment donné, de dire « il n'y a pas seulement Dieu qui doit avoir l'adoration, moi aussi je veux l'adoration ». Et il a commencé à s'enorgueillir, à vouloir recevoir ce qui revient à Dieu. Et en fait, à ce moment-là, il est devenu Satan, c'est-à-dire il a été précipité du ciel, de la présence de Dieu, et il est devenu mauvais, méchant, et il agit encore aujourd'hui. Que fait-il maintenant? Eh bien, il est foncièrement mauvais, il agit sur la terre. Son but avec ses anges déchus qui l'ont suivi, puisque la Bible dit que d'autres bons anges, comme lui, ont été séduits par Satan lui-même et sont devenus des anges déchus ou des démons. Et maintenant, ils agissent sur la terre comment? En poussant les hommes au péché, en créant des guerres, en poussant les hommes à l'orgueil, au suicide, à la dévalorisation et à se révolter contre Dieu. Et un de ses grands moyens d'action, c'est la tentation. C'est pourquoi Jésus nous demande de prier « Garde-nous de la tentation, garde-nous, protège-nous au moment de la tentation. » Il a toujours voulu tenter les hommes, et on le voit très bien avec Jésus, quand il a tenté le Seigneur à trois reprises, à un moment donné, il a dit « Je te donnerai toutes les richesses de cette terre, tous les royaumes de cette terre, si tu te prosternes et si tu m'adores. » Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le diable, il a toujours soif de cette adoration. Il ne l'a pas eu, il ne l'a pas obtenu dans le ciel, il a été précipité, mais il recherche toujours cette gloire et il aurait aimé que le Fils de Dieu l'adore. Mais Jésus l'a rejeté. Le diable donc agit encore aujourd'hui de cette manière. Matthieu chapitre 4, verset 1. On va lire un extrait de cette tentation de Jésus pour nous montrer les principes que nous devons appliquer dans notre vie. Matthieu chapitre 4, verset 1 dit ceci « Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur, s'étant approché, lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit, il est écrit, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Je lis juste un extrait de ce récit de la tentation, mais d'abord posons-nous la question, pourquoi est-ce que Jésus devait être tenté par le diable? Car le récit dit qu'il a été emmené dans le désert pour y être tenté par le diable. Il faut faire un petit parallèle dans l'histoire avec Adam et Ève. Adam et Ève ont été créés saints et parfaits et ils avaient tous les moyens de résister à Satan. Mais le serpent est venu dans le jardin d'Éden et a séduit Ève et lui a dit « Dieu a-t-il réellement dit ?» et l'a poussé à pécher, à se révolter contre Dieu. Adam et Ève ont donc chuté au moment de la tentation. Et Jésus est présenté comme le nouvel Adam. Dans les épîtres de l'apôtre Paul, c'est celui qui vient pour sauver l'humanité. On peut dire qu'Adam, par sa faute, il a précipité l'humanité dans la déchéance spirituelle, dans le péché, et c'est pour ça que de génération en génération, nous naissons tous pécheurs, depuis Adam. C'est ce qu'on appelle le péché originel. Adam a péché et a transmis ce péché à toutes les générations. Mais le nouvel Adam, c'est Jésus-Christ, et il est venu établir une nouvelle génération, une nouvelle descendance. Ce sont ceux qui ont la foi et ceux qui sont pardonnés de leurs péchés et qui vivent pour la vie éternelle. Donc d'un côté, vous avez la mort éternelle, la condamnation issue du premier Adam. De l'autre côté, si vous croyez en Jésus, vous êtes dans la génération de ceux qui ont la vie éternelle et qui sont sauvés et qui ont une place au paradis. Le diable, lui, il va tenter donc Jésus un petit peu comme il a tenté Adam, dans l'espoir de précipiter Jésus à la faute, de même qu'il a réussi avec Adam, il espère réussir avec Jésus. Donc le diable va tenter Jésus pendant un temps prolongé de jeûne et prière, puisque la Bible dit que Jésus a jeûné pendant 40 jours. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si vous êtes dans la prière, même si vous cherchez Dieu, vous n'êtes pas immunisé contre la tentation. C'est bien de prier, c'est important de se tenir dans la parole, c'est important de chercher la face de Dieu, mais tôt ou tard, le malin, il cherche toujours des moyens pour attaquer, pour tenter, pour séduire. Et ne vous appuyez pas sur vos victoires passées en disant « j'ai réussi ceci, j'ai fait cela », parce que le malin, il attend toujours un moment de faiblesse, il attend toujours un moment où ça sera plus facile. Et même les victoires passées ne sont pas des garanties que nous aurons des victoires demain. Donc nous devons constamment être humbles et constamment être dans la présence de Dieu. Quand je dis que les victoires passées ne présupposent pas les victoires de demain, ben nous avons le triste exemple de David qui a eu de belles victoires. Il a vaincu Goliath et là il était vraiment dans la foi. Il a vaincu les Philistins, il était vraiment dans la foi. Il a composé des psaumes, c'est lui qui a composé plus de la moitié des psaumes qui existent dans le livre des psaumes, ils sont tous de David. Donc on voit qu'il a été un homme inspiré, un homme béni, un homme de grande victoire. Néanmoins, lorsqu'il est devenu roi, il était au sommet du sommet, il ne pouvait pas aller plus haut, il était roi, il a un peu négligé le combat spirituel parce qu'il n'est pas allé au temps du combat. La Bible dit qu'il est resté à Jérusalem pour se reposer. Et c'est là que ça a été le début de sa chute. Déjà, cette première décision de ne pas aller au combat a favorisé, vous voyez, l'ennemi, il voyait bien qu'à un moment donné, il pouvait rien faire contre David. Mais à un moment donné, par sa propre faute, David a ouvert une porte. Il n'est pas allé au combat. Ça veut dire quoi pour nous? Ça veut dire négliger la prière. On a négligé la prière. On n'est pas dans le combat spirituel. On prend un peu de repos, mais on ne prie plus. Eh bien, le malin, il rôde. Et il a vu que David était plus fragile, il était plus facile de le séduire à ce moment-là. Et comme il traînait et qu'il n'était pas au combat et qu'il n'avait rien à faire, et il n'y a rien de pire que d'être oisif. Quand vous n'avez rien à faire, c'est les meilleures occasions. Le diable, il est là. Et il l'a poussé à regarder cette femme, Bathsheba, l'a convoitée, alors qu'il aurait pu, avec sa connaissance de la parole et l'esprit qui était en lui, rejeter cette pensée d'aller vers cette femme, surtout que lorsqu'il s'est renseigné auprès de ses serviteurs, les serviteurs lui ont dit « Mais n'est-ce pas la femme d'Uri ?» N'est-ce pas la femme d'Uri ? Ça veut dire que c'est une femme mariée. Ça veut dire que même un roi, dans la parole, la loi disait que l'adultère était interdit, même pour un roi, quiconque commettait l'adultère était passible d'un jugement de Dieu. Et donc, David n'était pas au-dessus des autres hommes. Et les serviteurs lui disent, mais attention, attention, c'est la femme d'Uri le Hittien. Et voyez, quand on est séduit, quand on est, j'allais dire, prédisposé parce qu'on n'a pas veillé, on n'a pas prié, on n'est pas au combat, eh bien, on est moins vigilant, il n'a pas écouté les conseils, et à un moment donné, il a laissé la séduction rentrer dans son cœur, le tentateur a fait son œuvre, et David a péché avec Bathsheba, cette femme mariée, donc il est allé vers elle, il a péché, et ça a été pour lui un moment très difficile dans sa vie, et avec des conséquences terribles. David, pourtant, était un homme de Dieu, il était proche du Seigneur, mais à un moment donné, il a été présomptueux de ses forces. Il pensait pouvoir toujours gagner. Il pensait que maintenant qu'il était roi, rien ne pouvait lui arriver. Il pensait qu'il avait atteint le sommet. Il n'y a rien de plus dangereux que quand on a accompli beaucoup de victoires et qu'on se sent un petit peu au-dessus des autres. Ça, c'est le terrain de l'orgueil. Et le terrain de l'orgueil, c'est le terrain préféré du diable pour nous amener à la faute. Il sait très bien qu'un chrétien orgueilleux, il va être plus fragile. Un chrétien orgueilleux, c'est déjà la préparation de sa chute. Rappelez-vous que Lucifer lui-même, c'est à cause de son orgueil qu'il est devenu Satan. L'orgueil, c'est vraiment la chose qu'il aime. C'est la chose vers laquelle il nous pousse. C'est la chose où il nous fait croire qu'on est arrivé, que plus rien ne pourra nous arriver et que maintenant on est au-dessus. Eh bien, c'est à ce moment-là que David a chuté. Alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire que nous devons constamment être humbles et petits devant Dieu, considérer nos faiblesses et ne pas tomber dans l'orgueil. Le diable donc s'est approché de Jésus. Ce texte nous étonne parce que Jésus c'est le saint, le juste, il n'a rien à voir avec le diable, mais le diable il s'approche quand même de Jésus. Ça veut dire que s'il a eu l'audace de s'approcher de Jésus, il n'aura pas peur de s'approcher de quiconque parmi nous. Il va s'approcher, mais dans le but de faire chuter. Et il essaiera toujours, même si ses chances sont très minimes, même si avec Jésus, il savait peut-être qu'il n'avait aucune chance, mais il a essayé quand même. Il sait très bien qu'avec chacun de nous, il aura quand même un espoir, une petite faiblesse, une petite faille. Il va essayer. De toute manière, il est toujours déterminé à perdre. En tout cas, il va mettre en place un plan pour perdre les chrétiens. Donc, il essaye avec Jésus et il va lui présenter des pains, plutôt des pierres, en disant « Transforme-les en pain, puisque tu es le Fils de Dieu, tu peux tout faire. » En fait, il veut pousser Jésus à faire quelque chose qui est en dehors de la volonté de Dieu. Et puis, Jésus va lui résister avec la parole de Dieu. Premier échec. Deuxième tentation. Jésus cite la parole de Dieu. Deuxième échec. Qu'est-ce qu'il fait après un deuxième échec ? Troisième tentation. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il ne s'arrête jamais, tant qu'il peut, il essaye. Même s'il échoue. Le diable ne dira pas « j'abandonne, avec lui c'est pas possible, j'y arriverai pas ». Il recommence jusqu'à ce qu'il obtienne ce qu'il veut. En tout cas, il essayera toujours. Alors c'est à nous de toujours résister avec la parole de Dieu, d'être ferme dans la foi. Mais la Bible, attention, nous donne des exemples de certains croyants qui étaient donc dans la foi, dans la vérité, qui avaient donné leur vie au Seigneur. Et Paul dit qu'ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Ça veut dire qu'ils ont été tentés aussi. Le malin s'est approché d'eux. Une fois, deux fois, ils ont résisté. Trois fois, peut-être 10 fois, peut-être 100 fois. Mais à un moment donné, ils ont lâché. Et le diable a fait son œuvre. Et en fait, ils ont cédé à la tentation. Ils ont péché. Et ils ont tellement péché qu'ils ne se sont pas repentis. Ils ont continué à s'éloigner de Dieu. Et finalement, ils se sont perdus. Il y a un autre aspect que le diable aussi, dans ses tentations, il veut faire, c'est vous rendre plus tiède. Ce que le diable n'aime pas, c'est les chrétiens qui sont bouillants, les chrétiens qui sont proches du Seigneur. Et il se contentera, si vous devenez tiède, eh bien il sera suffisamment satisfait, parce qu'un chrétien tiède n'est plus offensif, n'est plus actif pour empêcher le malin d'agir. Donc, il essaiera toujours, autant de fois que possible. Et Jésus, à chaque fois, repousser les attaques du malin par une méthode qui est toujours la même aujourd'hui. Il n'y a pas de 36 méthodes. Quand vous êtes attaqué par le malin, quand il veut vous séduire, la meilleure méthode, c'est de citer la parole de Dieu. C'est-à-dire prendre l'épée de l'esprit et combattre le diable avec la parole de Dieu. C'est la seule arme offensive. Et voilà pourquoi c'est important, frères et sœurs, de connaître des versets par cœur. Quand vous connaissez des versets par cœur, c'est comme si vous avez l'épée de l'esprit à votre disposition. Vous les avez dans votre cœur, et le moment où vous êtes tenté, le moment où vous êtes surpris, le moment où vous êtes attaqué, vous citez la parole de Dieu. C'est une arme. Et à chaque fois, ça fait reculer l'ennemi. Donc, si vous les avez en vous, vous avez la parole en vous, vous avez l'épée de l'esprit qui vous aidera à triompher du malin. Mais maintenant, quand le diable est vaincu, puisque la Bible dit qu'à 3 reprises il a tenté Jésus et qu'à 3 fois il a eu un échec, qu'est-ce qu'il a fait? Au bout d'un moment, il est parti. Mais regardez Luc chapitre 14, verset 13, parce que lui, il part, mais il attendra un moment favorable pour revenir. Luc 4, 13, « Après avoir tenté de toutes ses manières, là on parle de Jésus, le diable s'éloigna de lui, mais jusqu'à un moment favorable. » Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il attend. Il sait qu'avec cette personne-là, il ne peut pas y arriver. Il sait que là, c'est bloqué, il est barricadé, il est vraiment dans le Seigneur. Donc il va laisser, il va attendre. Mais il va attendre quoi? Un moment favorable. C'est un peu vous savez, le diable, on l'appelle un lion rugissant dans la parole de Dieu. Et la tactique des lions pour attaquer, bah, il prend un peu la même chose, c'est-à-dire qu'il rôde. Il rôde plutôt à l'aube ou au soleil couchant quand il fait un peu obscur, c'est-à-dire qu'on ne discerne pas trop les choses. Donc il attend déjà un moment favorable. Il se cache derrière les hautes herbes, le lion, pour repérer sa proie. Il se met à 30 mètres, il repère. En plus, il calcule bien de se mettre pas dans le sens du vent pour que les proies entendent, sentent son odeur. Il se met dans un autre axe du vent. Comme ça, il passe incognito. Et puis, quand le moment est favorable, c'est-à-dire quand il y a une bête isolée, quand il en repère une qui est un peu blessée, un animal qui est un peu plus lent que les autres, eh bien, ils vont, s'ils sont plusieurs, ils vont se jeter sur cet animal-là, le plus faible, le plus facile à attraper, en fait, et ils vont, en quelques minutes, le tuer à cause de son poids, à cause de sa violence, de sa mâchoire. Il va tuer l'animal. Donc voici sa tactique. Le diable n'a aucune pitié, mais il passe beaucoup de temps à attendre. Et il attend le moment favorable. C'est pour ça, frères et sœurs, la Bible, elle dit « veillez et priez » et que nous ne devons jamais nous relâcher parce que l'autre, l'ennemi, lui, il attend. Il attend ce moment où nous ne veillerons pas, ce moment où nous ne prierons pas, ce moment où nous serons peut-être découragés, peut-être affaiblis, on a été blessé dans notre cœur. On a reçu une mauvaise parole, peut-être un frère ou une sœur vous a déçu, ou Dieu n'a pas répondu à votre prière, et là vous êtes fragilisé. Eh bien, tout d'un coup, il revient. À ce moment-là, il sent qu'il y a une possibilité, une ouverture, quelqu'un de plus fragile. Par exemple, un deuxième élément, c'est Satan qui a tenté Judas pour livrer Jésus. On connaît bien Judas, c'était un des 12 apôtres. Jésus l'avait choisi pour être un porteur de la bonne nouvelle. Il a donc annoncé l'évangile. Il a même prié pour des malades. Et la Bible dit qu'il avait le même ministère que les autres. Donc c'était vraiment quelqu'un qui suivait Jésus. Et la Bible nous montre qu'en 3 étapes, Judas a chuté. Première étape, la Bible dit qu'il volait dans la bourse des disciples, parce que c'était lui qui tenait la caisse. Personne ne le savait, mais cet homme aimait l'argent, et il en voulait plus pour lui, et il en prenait une partie pour ses biens personnels. Et lorsque une femme qui s'appelait Marie a offert un parfum très cher, elle l'a déversé sur les pieds du Seigneur pour l'honorer, donc Jésus a mis en valeur cette femme. Mais Judas s'est offusqué, ou plutôt il a fait semblant de s'offusquer, en disant, mais n'aurait-on pas pu vendre ce parfum pour 500 deniers, 500 deniers, un denier c'était un jour de salaire de travail. Est-ce qu'on n'aurait pas pu vendre ce parfum pour 500 deniers, c'était une somme très importante, pour le donner aux pauvres? Mais il mentait parce que, en fait, le texte dit qu'il dérobait dans la caisse ce qu'on y mettait. Donc son avance était fausse. Son problème, donc, c'est un péché non confessé. Et frères et sœurs, même si nous sommes chrétiens, si nous vivons dans le péché et que nous ne l'avons pas confessé à Dieu et que nous entretenons un péché, eh bien forcément, au bout d'un moment, on ouvre une porte à l'adversaire. Par son entêtement, Judas a ouvert une porte au malin dans sa vie. Il n'a jamais voulu confesser son péché. Il aimait l'argent, il volait, il ne l'a jamais confessé. Et regardez Éphésiens 4, 26, 27, voilà ce que cherche l'adversaire. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, ça veut dire confessez votre péché, repentez-vous, demandez pardon à Dieu, que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Ben, Paul est en train de nous expliquer que quand on pêche, quand on se met en colère, quand on est violent, quand on est méchant, quand on laisse l'animosité gagner notre cœur et qu'on ne se repent pas, eh bien on est en train de laisser un accès tout simplement à l'adversaire. Et lui, il va en profiter pour pousser au mal. Donc Judas avait tout à fait l'apparence du vrai croyant, il servait le Seigneur, il était là un petit peu comme à l'église, il était dans les activités, mais il vivait dans un péché secret qui a ouvert un accès au malin. Maintenant, qui peut donner un accès au diable? Le texte dit que c'est nous-mêmes. Ne donnez pas un accès au diable. Qui est-ce qui peut donner un accès au diable? Nous-mêmes. Comment? On prie pas, on laisse pas le Seigneur le mettre dans notre vie, on néglige les choses de Dieu, on se repent pas, on demande pas pardon, on est en train de donner un accès au diable. C'est nous-mêmes notre propre responsabilité, et si on le fait, eh bien, il y aura des conséquences. Ça, c'est la première étape. Il y avait un péché non confessé. Deuxième étape dans la chute de Judas, il entretient des pensées inspirées par le malin. Vous trouvez ça dans Jean chapitre 13, verset 2, le texte dit que le diable lui mit dans le cœur la pensée de livrer Jésus. Et quand le diable vous met une pensée dans le cœur, la première chose, c'est de la rejeter au nom de Jésus. Mais Judas ne l'a pas fait. Le diable lui met la pensée de livrer Jésus. Il aurait pu dire, mais cette pensée, elle vient pas de Dieu. Cette pensée, elle vient du malin. Je la rejette au nom de Jésus. Je la chasse de mon cœur. C'est l'attitude que nous devons avoir. Donc, il aurait dû combattre par la prière. Il aurait dû chasser cette pensée de son esprit. Mais, ayant un accès manifestement assez grand ouvert, il a entretenu cette mauvaise pensée. Et peut-être, s'est-il dit, je ne sais pas comment le malin l'a inspiré, mais peut-être s'est-il dit, il faut vraiment que Jésus se dévoile comme le Messie, et peut-être qu'en le livrant comme cela aux Romains, il va éclater sa gloire, il va montrer qu'il est vraiment le Messie. Qu'est-ce qui l'a poussé à faire une chose pareille? On ne sait pas. Mais si vous laissez les pensées du malin venir dans votre esprit, en tout cas, il vous poussera à faire de mauvaises choses. Et vous ne tarderez pas à faire sa volonté. D'ailleurs, il y a deux semeurs dans la Bible. Le premier semeur, c'est Jésus qui sème le bon grain, c'est la parole de Dieu, c'est celle que nous devons recevoir dans notre cœur. Mais si vous lisez la parabole de Matthieu 13, les versets 24 à 30, Jésus dit, il y a deux semeurs. Le premier semeur, il sème dans son champ le bon grain. C'est du blé. Mais le texte dit que pendant la nuit, un autre semeur est venu. Pendant que les gens dormaient, cet autre semeur, c'est le diable. Et il est venu semer de l'ivraie. Quand le blé a poussé, on a commencé à voir l'ivraie aussi. Et les moissonneurs ont dit au maître du champ, mais est-ce qu'on doit arracher l'ivraie tout de suite? Et le maître a dit non, attendez que le blé croisse, l'ivraie aussi va croître, et vous arracherez à ce moment-là l'ivraie, vous la lirez, vous la jetterez dans un lieu de feu, et tandis que le bon grain, vous le mettrez dans mon grenier. Mais il y a deux semeurs. Il y a le semeur du bon grain, c'est Jésus qui sème la parole de Dieu dans nos cœurs. Et pendant qu'on dort, pendant qu'on ne veille pas, pendant qu'on n'est pas vigilant, il y en a un autre qui vient et il vient semer aussi sa semence, l'ivraie. Et c'est pour ça qu'il faut la discerner. Ce que Judas n'a pas fait, c'est qu'il n'a pas discerné l'ivraie qui était semée dans son cœur. C'était la mauvaise pensée du malin. Et à ce moment-là, si vous la discernez, vous la rejetez au nom de Jésus. Mais si vous ne la discernez pas, si vous laissez cette ivraie développer dans votre cœur, finalement, vous n'obéirez pas au Seigneur pleinement et vous serez dans le compromis. C'est pour ça qu'il faut faire le tri dans nos pensées. Un petit peu comme sur l'ordinateur, on met un antivirus. Eh bien, dans notre cœur, il nous faut mettre un antivirus, la parole de Dieu, pour résister aux semences du malin, à toute la pensée du malin. Ça, c'était la deuxième étape. La première, c'est donc, il a déjà un péché non confessé. Deuxième étape, le diable lui inspire une mauvaise pensée, il ne le discerne pas, il ne la rejette pas. Troisième étape, c'est dans Jean chapitre 13, verset 27. Ce texte dit que Satan est entré dans Judas le soir de la Pâque. Dès que le morceau lui fut donné, donc c'est Jésus qui distribue le pain, et il est en train de prendre le dernier repas pascal avec les disciples, eh bien, Judas est bien là. Satan entra dans Judas, et Jésus lui dit, « Ce que tu fais, fais-le promptement. » Personne n'a vu ce qui se passait. Il n'y a que Jésus qui a discerné le problème. Les autres disciples croyaient que Jésus lui disait d'aller acheter des choses pour le repas. Ils n'ont pas vu le problème spirituel. Donc Judas, ici, est vraiment habité par le malin et va commettre la folie d'aller livrer Jésus de cette manière comme une trahison. Ben, tout ça, c'est des étapes. Et quand on est engourdi, quand on est un petit peu endormi, on n'est pas à l'abri d'un accident. D'ailleurs, on dit qu'un accident sur trois sur l'autoroute, c'est le résultat de somnolence. On somnole, un accident sur trois sur l'autoroute, je parle d'accidents mortels, sont dus à la somnolence. On n'a pas été vigilant, on s'est endormi, et c'est la mort. Eh bien, sur le plan spirituel, si vous vous endormez, c'est la mort. Il y a Samson qui était pourtant animé d'une force extraordinaire avec ses longs cheveux. Il a révélé son secret à Delila qui la tourmentait jour et nuit pour lui révéler son secret. Il lui a dit... Et la Bible dit qu'elle l'a endormi sur ses genoux. Et on peut dire que spirituellement, il était vraiment endormi. Et à son réveil, il disait « Je m'en sortirai comme les autres fois ». Mais il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Il était faible. Dieu ne l'a pas béni à ce moment-là parce qu'il a désobéi à Dieu. Alors Judas a finalement livré Jésus dans le jardin de Gethsémané. Vous connaissez cette histoire par un baiser. Il a désigné Jésus. Et remarquez comme l'histoire est tragique. Parce que cet homme qui a péché, donc qui a ouvert son cœur, qui s'est laissé manipuler par le diable, peut dire qu'il a accompli le plan du diable pour sa vie. Une fois qu'il a livré Jésus, qu'est-ce qu'est devenu Judas ? C'est là que c'est encore plus tragique. Cet homme n'est pas revenu vers Dieu. Il ne s'est pas repenti de ses péchés, mais il a persévéré jusqu'au bout dans sa folie en allant jusqu'à se suicider. Ça veut dire qu'une fois que le diable en a terminé avec quelqu'un, il le pousse à se mettre la mort lui-même, c'est le diable qui est il vient pour égorger, voler et détruire. Il vient pour donc pousser les gens à se supprimer. Voilà l'action du diable sur Judas. Il va vous dévaloriser pour vous pousser à vous supprimer. Ce n'est pas le plan de Dieu pour vous. Le plan de Dieu, c'est que nous acceptions Jésus et que nous ayons la vie éternelle et que nous vivions dans les plans, dans les voies du Seigneur. Mais regardez autour de nous, dans de nombreux pays aujourd'hui, on assiste à une augmentation de la légalisation du suicide assisté. En Suisse, en Belgique, en Autriche, en Italie, tous ces pays ont basculé. Eh bien ça derrière, vous voyez la pensée du malin, il sème son ivraie. Son ivraie, c'est ça. La Suisse a accompagné 1400 personnes à la mort en 2021, de manière légale. En Belgique, une jeune femme de 23 ans seulement a décidé de se supprimer et légalement, elle a été assistée pour son suicide. Et encore récemment, une jeune youtubeuse qui s'appelle Olympe, qui a seulement 23 ans, a annoncé son suicide assisté en 2023. Nous voyons qu'il y a une sorte de folie suite à la semence de l'ivraie. 1 Jean 5, 19, et ce verset est réel, « Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. » Plus nous arrivons dans la fin des temps, plus nous voyons que le monde entier est sous la puissance du malin. Ensuite, un autre exemple, c'est Ananias et Saphira. Ananias et Saphira, ils étaient des chrétiens de l'église de Jérusalem. C'était des chrétiens. Ils aimaient Dieu, ils servaient Dieu. Mais ils ont voulu faire comme les autres, être généreux comme les autres, tout en gardant une partie du champ qu'ils vendaient. Parce que beaucoup de chrétiens vendaient des champs, des propriétés, des maisons, ils donnaient tout ça aux apôtres. Actes chapitre 5, versets 1 à 3. « Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira, sa femme, vendit une propriété et retint une partie du champ. Sa femme le sachant, puis il rapporta le reste et le déposa au pied des apôtres. Pierre lui dit, « Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ ?» Alors qu'est-ce que c'est que ce texte ? il voulait se montrer plus généreux que ce qu'il était. Il voulait donner une apparence, en fait, de générosité tout en gardant une partie de l'argent pour eux, c'est-à-dire dans le mensonge. C'était un couple chrétien, connaissait Dieu, il savait que mentir c'était mal. Qu'est-ce qui leur est venu à l'esprit pour faire une chose pareille? Mais en tout cas, la chose est devenue possible parce qu'ils ont ouvert une porte par leur mensonge, par leur dissimulation. Le diable a trouvé un accès. Et frères et sœurs, c'est pour ça que la Bible elle dit de garder notre cœur plus que toute autre chose, dans Proverbe 4, 23. Si vous gardez votre cœur plus que toute autre chose, le diable ne trouvera pas d'accès. Mais chez Ananias et Saphira, il a trouvé un accès et ça les a poussés au mal. Si vous donnez un accès au diable, lui, il trouvera toujours un moyen de s'y engouffrer. Il vous poussera à dire ce que vous voulez pas dire, comme Ananias et Saphira, à faire ce que vous voulez pas faire, à faire du mal au lieu de faire du bien, à tromper, à voler. Je me suis posé la question, est-ce qu'Ananias aurait pu changer? Est-ce qu'il aurait pu se repentir? Est-ce qu'il aurait pu réaliser que ce qu'il avait fait, c'était grave? Moi, je pense que oui. Il aurait pu changer. Il aurait pu demander pardon à Dieu, mais lisez bien le texte biblique, vous ne verrez pas chez lui de repentance. Vous ne verrez pas chez lui de prise de conscience que c'est mal. Vous ne verrez pas chez lui de supplication à Dieu de le pardonner. Donc il s'est entêté dans son péché jusqu'au bout. Et en fait, il n'avait pas la ceinture de la vérité. Quand vous n'avez pas la ceinture de la vérité, vous savez, les 6 armes de Dieu, la ceinture de la vérité, quand vous n'êtes plus dans la vérité, en fait, le diable, il attaque par l'arme qui vous manque. S'il vous manque la ceinture, il attaque par là. Donc, il mentait. Le diable attaque par là. Il y a le bouclier de la foi. Si vous n'avez pas la foi, si vous n'êtes pas dans la foi, le diable attaque par là. C'est le bouclier de la foi, il faut l'avoir. Les chaussures du zèle, vous n'êtes pas zélé, vous n'aimez pas servir, vous n'aimez pas l'œuvre de Dieu, il attaque par là. Il attaque par le point faible. Je termine avec un dernier verset, 1 Timothée chapitre 5, verset 14. C'est un texte tout à fait étonnant, mais qui est dans la parole de Dieu et qui nous invite à être vigilants, même si nous sommes chrétiens. Ici, il s'agit de jeunes veuves qui se sont détournées de Christ pour suivre Satan. 1 Timothée 5, 14. Je veux donc que les jeunes, sous-entendu les jeunes veuves dans le contexte, se marient et qu'elles aient des enfants, qu'elles dirigent leur maison et qu'elles ne donnent pas à l'adversaire, c'est-à-dire au diable, aucune occasion de médire, car déjà quelques-unes se sont détournées pour suivre Satan. Qui étaient ces jeunes veuves? C'étaient des chrétiennes de l'église d'Éphèse. Donc, elles étaient là et Paul dénonce un péché parmi elles. Elles étaient oisives, elles allaient de maison en maison, elles étaient causeuses et intrigantes, c'est-à-dire des commérages, elles parlaient à tort et à travers, elles créaient du trouble dans l'église, c'était des mauvais éléments. Et Paul évoque bien 2 possibilités pour ces veuves. La première possibilité, soit elles se répandent, elles changent de vie, elles donnent un bon témoignage, et à ce moment-là, elles font la volonté de Dieu, elles font ce qui est juste, et le diable n'aura pas accès en elles. Pourquoi? Parce que le diable ne trouvera rien à redire. C'est le texte qui dit qu'elles ne donnent à l'adversaire aucune occasion de médire. C'est ça qu'il faut arriver, c'est que nous sommes dans la vérité, dans la droiture, le diable ne peut rien faire. Il n'a rien pour médire. Il n'a pas d'appui pour vous tourmenter, il ne peut rien faire contre vous. Mais la deuxième possibilité, et quelques-unes ont cédé à la deuxième possibilité, c'est de céder à la tentation. Donc ces veuves ont suivi leur mauvais penchant, et il dit que quelques-unes se sont détournées du droit chemin pour suivre Satan. C'était la deuxième option. Malheureusement, le choix de quelques-unes, elles ont opté pour ce choix-là. Et c'était quoi se détourner? Elles se sont détournées de quoi? Elles se sont détournées du chemin de la droiture, du chemin qui mène au ciel. Elles se sont détournées du saint commandement de la parole de Dieu. Elles se sont détournées des commandements de la parole, tout simplement, et elles ont abandonné leur premier amour. Ces personnes étaient vraiment dans la voie de la vérité, sinon elles n'auraient pas pu se détourner. Donc elles étaient chrétiennes, mais elles avaient leur maître, c'était Jésus, et elles ont décidé de changer, de revenir en arrière. Spirituellement, donc, ces jeunes veuves ont suivi Satan. Jésus est très clair, on ne peut pas servir de maître, ou on haïra l'un et on s'attachera à l'autre, ou on s'attachera à l'autre et on haïra l'un. Il n'y a pas possibilité de servir Dieu et maman. Mais si vous venez en Christ, Christ est le seul qui peut vraiment vous libérer. Jean 8, 36, « Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. » Et les vraies veuves, enfin les veuves qui sont restées dans les voies de Dieu, sont celles qui sont restées réellement libres, réellement attachées au Seigneur, tout en étant esclaves de Christ, comme Paul le dit, à la fois libres en Christ, parce que pardonner des péchés, mais en même temps se mettre au service de Christ pour faire sa volonté, c'est la vraie liberté. Tandis que les autres, qui ont laissé le péché dominer dans leur vie, eh bien elles ont fait la volonté du malin, et finalement elles ont suivi un autre maître. Satan aussi cherche des disciples, des gens qui vont le suivre encore aujourd'hui, c'est pourquoi il nous faut être vigilants, et nous choisir le maître qui nous a sauvés, celui qui nous a rachetés. C'est pourquoi rappelez-vous ce que Jésus a fait pour vous. Il vous a rachetés de vos péchés, il vous a sauvés, c'est votre maître, et vous ne devez pas suivre un autre maître. La Bible dit qu'il nous a arrachés au monde de ténèbres pour nous transporter dans le royaume du Fils de son amour. Et maintenant, notre vie, elle est là, et notre désir, c'est de suivre Jésus. Mais si vous êtes tenté de revenir en arrière, peut-être Dieu n'a pas répondu à votre prière, ou au travail, ça se passe mal, ou vous avez été repoussé autour de vous, personne ne vous soutient, vous êtes seul, et vous avez l'impression que Dieu vous a abandonné, et là, vous êtes tenté de revenir en arrière. Et le diable, il attend justement ces moments-là. Mais pour devenir disciple, il faut s'attacher à Jésus et suivre Jésus. Que ça aille bien, que ça aille mal. Jésus a dit aux disciples, vous ne pouvez pas être un disciple si vous n'aimez pas Jésus par-dessus tout, par-dessus même plus que votre père, votre mère, votre femme, vos enfants, vos fils, vos filles, vos frères, vos sœurs. Si vous n'aimez pas Jésus par-dessus tout, vous ne pouvez pas être un disciple. Il a dit, si vous ne portez pas votre croix chaque jour, vous ne pouvez pas être un disciple. Et si vous ne renoncez pas à tout ce que vous possédez, vous ne pouvez pas être un disciple. Ça veut dire qu'il faut mettre Jésus à la première place, et c'est comme ça qu'on pourra résister à la tentation du malin, et c'est comme ça qu'on pourra avoir la victoire sur l'adversaire. On va prier quelques instants. Le malin, lui, il cherche toujours à tenter. Il a toujours l'espoir que quelques-uns vont succomber. Il veut toujours des disciples aujourd'hui. Mais vous, en tant que chrétien, vous avez la prière de la foi, et notamment la prière du Notre Père qui nous dit « Délivre-nous du malin. Ô Seigneur, délivre-nous du malin. Délivre-nous de l'orgueil. Garde-nous des mauvaises pensées. Protège-nous contre les attaques du malin qui veut nous séduire, qui veut nous détourner du Saint Commandement, qui veut nous détourner de la voie étroite et resserrée. » Ça, c'est notre prière, la prière de la foi. Alors, comment faire pour vaincre le diable? Eh bien, laissez toute la place à Jésus dans votre cœur. Le malin ne pourra rien contre vous. Dans 1 Jean chapitre 4, verset 4, « Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous, c'est-à-dire Jésus, il est plus grand que celui qui est dans le monde, c'est-à-dire le diable. Et si vous avez Jésus en vous, si vous laissez le Seigneur régner dans votre cœur, s'il domine sur votre vie, il est plus grand que celui qui est dans le monde. Il essaiera d'attaquer, il essaiera de vous tenter, mais laissez Jésus régner dans votre cœur. Il est votre sauveur, il vous a pardonné à la croix, mais il veut être votre Seigneur, il veut diriger votre vie, et c'est comme ça que vous remporterez la victoire. Merci pour ta parole, nous croyons qu'elle est la vérité, que tous ces enseignements sont aussi pour nous, que nous voulons te laisser la première place dans notre cœur, dans notre vie, afin que tu règnes en nous, Seigneur, et que tu puisses nous diriger dans ta volonté. Merci de nous garder du malin, de nous protéger de ses tentations, de ses actions, de son désir de nous perdre. Mais Seigneur, nous voulons te laisser toute la place en nous pour que nous puissions combattre dans la foi. Nous chassons au nom de Jésus toutes ces pensées impures, tout ce que le malin veut semer constamment, et nous gardons notre cœur plus que toute autre chose, et nous le mettons entre tes mains. Oui, Seigneur, protège chacune de nos vies, permets que chacun de nous, nous continuions à marcher dans les voies de Dieu, à ne pas nous détourner du Saint Commandement, à ne pas retourner en arrière, mais à toujours nous attacher à ta parole, dans le nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.